sous les couvercles, la good food.
Carlo.
Oui, Sophie.
Arthur Lequen pulvérise depuis des années nos croyances hein, sur la cuisine. On l'avait reçu il y a quelques années pour nous parler des spaghettis bolognaises qui n'existent pas.
C'est dingue,
vous vous souvenez ?
Oui, j'avais oublié. oublié que ça n'existait pas. Oui.
Il nous revient en librairie avec cet ouvrage « Allez-vous faire cuire un œuf à la perfection ?» Méthode pour révolutionner 65 recettes de tous les jours publiées chez Albin Michel. Arthur Lequen, vous en êtes persuadé, de trop nombreux plats se font par automatisme avec de vieilles, de mauvaises habitudes. Et c'est pas là qu'on va trouver notre plaisir culinaire. La science, en fait, a beaucoup à nous enseigner dans ces petits gestes de routine.
Oui, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. La science est intéressée à la cuisine depuis peu de temps, en fait, depuis une quarantaine d'années. Et là, on a ce poids de tradition culinaire qui fait qu'on répète des choses qui avaient peut-être des raisons d'être il y a 2 ou 3 siècles, mais qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Avant, on avait des fours à bois, on avait des fours qui n'étaient pas précis. Aujourd'hui, on a des fours très précis, on a des plaques de cuisson qui sont très précises, on a des réfrigérateurs, etc. Donc, on a des aliments de bien meilleure qualité qu'il y a 50 ans et encore plus il y a 100 ou 200 ans. Donc, les choses ont évolué et changé. Et nos goûts ont évolué.
Bien sûr.
Et aussi, il y a un truc dont on parle peu, c'est que notre dentition a évolué. C'est-à-dire que maintenant, on a des dents. Mais au Moyen-Âge, on n'avait pas de dents. Et les gens étaient tous édentés. Donc, on ne mangeait pas la même chose. On mangeait que des soupes parce qu'on ne pouvait
c'est
pas
ça.
Mâcher.
Le fameux pot-au-feu, par exemple, vous en parliez. Hein, et vous en parlez d'ailleurs dans vos nombreuses publications. La recette originale n'a plus vraiment de sens. Pourquoi ?
À l'origine, le pot-au-feu, c'était un pot dans lequel on mettait des légumes, de l'eau, qu'on laissait sur le feu. Et les paysans servaient un potage. D'ailleurs, c'est la même étymologie, potage, pot-au-feu, le soir. Et quelquefois, quand ils avaient la chance d'avoir un petit morceau de viande, ils le mettaient dedans, mais ils le laissaient cuire longtemps.
Oui.
Mais ils le laissaient cuire dans un bouillon.
Mmh.
Aujourd'hui, cette façon de faire, de mettre la viande à cuire dans de l'eau, est idiote parce que votre eau, au départ sans goût, s'est transformée en bouillon à la fin de la cuisson. Et tout le bon goût de viande qu'elle a, c'est la viande qui l'a perdue. Et c'est pour ça, c'est parce que la viande est tellement rincée et tellement sans goût qu'on la sert avec du gros sel, avec de la moutarde pour cacher le fait qu'elle n'a plus aucun goût.
C'est ça. Donc pour un pot-au-feu réussi, il faut cuire la viande dans un bouillon déjà parfumé, si je
Exactement.
Comprends bien.
Bon. Exactement. La viande de ce fait-là, perd 2 fois moins de poids.
Ouais.
Ce qui est intéressant parce qu'au prix où est la viande.
Mais ça, c'est vérifié.
Ouais,
ça.
Avoir
ouais,
ouais.
C'est vérifié.
Ouais,
ça.
Ouais, ouais. Vous vous souvenez quand
oui,
Yannick Aleno était venu nous parler de l'art des bouillons ? Il nous avait dit que le bouillon parfait, c'était faire cuire du céleri rave 12 heures à 83 degrés. Avec ça, vous avez une base de bouillon absolument sensationnelle.
J'ai justement engagé quelqu'un pour surveiller les 83 degrés pendant 24 heures.
Non,
chez moi.
Mais...
Ça m'a coûté. Je l'ai payé en titre service, donc ça va. Mais oui, c'est bien. Oui,
oh, c'était
bien.
Pour un petit peu de culture.
Mais, oui,
voilà.
Non, c'est bien. C'est, bon, un peu de gaffe à
moi. Non, mais moi, je vais vous dire, je fais des bouillons à la maison. Souvent, je fais cuire, pratiquement 24 heures.
Ah.
Moi, je suis pas à 83. Je suis un peu plus en dessous. Je suis aux alentours de 73, 74 degrés. Ça suffit, c'est couvert et au four parce qu'au four, la chaleur arrive de tous les côtés, alors que si vous êtes sur plaque, la chaleur n'arrive qu'en dessous, donc ça change la qualité du bouillon. Et ensuite, je le passe et je le fais réduire à peu près une douzaine d'heures, doucement.
Oui.
Tout doucement, et donc comme c'est très doux, il y a juste l'eau qui s'évapore, il n'y a pas de molécules savoureuses et sapides.
Ouais.
Et oui. Et à ce moment-là, je fais une réduction, j'arrive même une demi-glace, une glace si je veux ensuite. J'ai quelque chose de très très bon que je mets au congélateur, et ensuite je me sers de ça sur les légumes de mes enfants, ou quand des amis viennent, sur les pâtes.
Voilà pour les bons trucs. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Arthur Lequen, vous épinglez une foule de petits gestes, l'écrivez-vous, souvent inutile, notamment le fait de saler la viande juste avant la cuisson. Ah, l'art du salage, on va en parler. Parlons par exemple des viandes, du poisson. Expliquez-nous ce que la science dit par rapport à ce sel qui va intégrer les chairs.
Écoutez, souvent on voit des chefs qui salent leur viande juste avant cuisson, mais si on regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo, on s'aperçoit qu'ils ressalent après cuisson.
Mmh.
En général, ils salent après cuisson aussi parce que leur cerveau a intégré que le fait de saler juste avant cuisson ne servait à rien. Donc, mais eux,
mais pourquoi,
n'ont pas conscience.
Pourquoi
attention à ne pas être mal compris.
Oui. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe avec le sel?
C'est très simple. Le sel, quand vous déposez du sel sur une viande, il faut à peu près une dizaine de minutes pour qu'il se dissolve. Et une fois qu'il s'est dissous, il faut encore une dizaine de minutes avant qu'il pénètre.
D'accord.
À l'intérieur de la viande.
Ouais.
On a mesuré la vitesse de pénétration du sel dans la viande. C'est entre 1 mm et 1,5 mm par heure. ouais. par heure. Donc quand vous salez juste avant cuisson, déjà, ça n'aura pas le temps, ça ne sert à rien. Première chose. Deuxième chose, quand vous faites la cuisine et vous faites cuire une viande, vous avez de la fumée blanche qui sort et puis des petites explosions de gras et il y a du gras un peu partout autour. Ce qui se passe, c'est que l'eau contenue dans la viande se transforme en vapeur au contact de la chaleur de la poêle et que cette vapeur est expulsée vers l'extérieur. Quand elle a été expulsée, le sel, lui, ne va pas rentrer à contre-courant. Imaginez un train bondé de gens pour aller rentrer dans ce train où 10 000 personnes sont en train de sortir, c'est très compliqué. Et ben là, c'est pareil, le sel ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ça, c'est la deuxième raison. Mm-hmm. Et la troisième, c'est que comme la surface s'assèche, il n'y a plus d'eau à disposition, et quand il n'y a pas d'eau à disposition, le sel ne peut pas se dissoudre.
Donc on doit saler très longtemps avant.
Exactement.
Oui, en fait, ça change radicalement les choses. C'est-à-dire que quand on sale assez en avance, puisqu'on a vu tout à l'heure que le sel, la vitesse de pénétration du sel, c'est entre 1 mm et 1,5 mm par heure, il faut saler pour que le sel ait le temps de pénétrer en profondeur. Mm-hmm. Donc, pour une bavette qui va faire 2 cm d'épaisseur, il faut saler une dizaine d'heures avant. Pour un rôti, 24, 48 heures avant. C'est simple. En fait, quand vous salez, quand vous allez l'acheter, vous revenez à la maison, vous salez, et puis vous faites cuire le lendemain ou le lendemain comme vous feriez d'habitude. Mais vous salez dès que vous achetez votre viande. Quand vous salez longtemps en avance, le sel a le temps de pénétrer en profondeur, change la structure moléculaire de ses protéines, qui ne se tordent plus à la cuisson. Et comme elles ne se tordent plus, elles n'expulsent plus de jus.
D'accord.
C'est-à-dire que contrairement à une idée reçue, le sel longtemps mis en avance donne des viandes plus juteuses que des viandes non salées.
D'accord, mais c'est passionnant ça, parce que moi j'ai acheté une superbe côte à l'os pour demain, donc ça veut dire
que vous salez.
Ce soir
vous
je peux la saler. Je la sale ce soir.
Dès qu'on a fini l'émission, vous rentrez, vous salez tout de suite.
Léo Béguin, vous êtes cuisinier, vous le saviez ça?
Je le savais, oui. Ah. Mais je l'ai appris aussi grâce à Arthur.
Bon, ben voilà. Et Carlo, vous pouvez déjà commencer la dégustation des goudas.
Un
petit peu salé, là. Je vois qu'il y a un petit truc. Pas mal. Cet ouvrage, Arthur Lecan, allez vous faire cuire un œuf. Parlons d'œufs. Bon, moi, j'adore les œufs brouillés le dimanche matin, etc. Ou les bonnes omelettes. Au niveau du sel, il y a nouveau aussi des règles qu'on ne connaîtrait pas.
Pour les œufs brouillés, il vaut mieux saler une quinzaine de minutes avant. Ça donne des œufs plus crémeux, plus doux, parce que là aussi, ils vont garder plus d'eau lors de la cuisson, et donc ils vont moins s'assécher et moins devenir grumeleux.
Et concernant le salage des belles pièces de poisson, même règle aussi?
Oui, mais alors le sel pénètre plus vite, donc les pièces de poisson, déjà les filets, on sale sur le côté chair et pas sur le côté peau, parce que le sel ne passe pas à travers la peau, mais on sale entre 1 heure et 4 heures avant.
D'accord. Alors, on a reçu pas mal de questions cette semaine concernant les légumes que l'on fait dégorger. Je pense aux aubergines, lorsqu'on fait une parmigiana, etc. Est-ce que c'est utile? Combien de temps ça doit être fait? Racontez-nous.
Alors, moi, les légumes pour la parmigiana ou pour la ratatouille, je les fais dégorger une demi-heure. Pour une raison simple, c'est que déjà, ils vont perdre un tout petit peu d'eau. Mais ensuite, comme ils vont perdre cette eau, quand on va les faire cuire, ils vont pas bouillir dans leur eau de constitution. Ils vont vite dorer.
D'accord.
Et donc, on va avoir des légumes plus croquants et moins mous et avec plus de goût.
Oh là là. Arthur, je dois vous confier un truc. On est en pleine dégustation pendant votre cours magistral. On a là un petit gouda, Léo Béguin. Je le trouve bien salé, comme il faut.
Juste parfait.
Ça, c'est relativement jeune, mais pas si jeune que ça.
Oui, c'est ce qu'on appelle un gouda mi-vieux.
C'est ça.
Donc, c'est un gouda qui a 4 mois d'affinage à peu près. Ce qui est intéressant, c'est vraiment son équilibre justement sur l'aromatique et la texture. C'est ce qu'on va rechercher, c'est ce côté réconfortant.
Absolument magnifique. Ouais. Arthur Lecan, dans cette émission, on parle souvent de la mise en température des produits qui vont passer à la cuisson. Là aussi, on ne fait pas n'importe quoi.
Non, mais on entend souvent ce conseil, sortez votre viande une demi-heure, 1 heure avant cuisson. C'est le pire des conseils qu'on puisse donner. La remise en température des viandes, par exemple, un steak, une bavette de 200 grammes, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie. Votre côte de bœuf, là, que vous allez faire demain, il faut, si vous la remettez, vous la sortez, pour que le cœur soit à température ambiante, il va vous falloir plus de 5 heures.
Donc ici, on part du principe que ma côte à l'os, elle est au réfrigérateur.
Voilà, elle est au réfrigérateur. Quand vous la sortez de 5 degrés pour que le centre arrive à 20 degrés, il faut 5 heures, 5 heures et demie. Pour un gigot, il faut entre plus de 6 heures et demie.
Ah oui.
Parce qu'en fait, l'extérieur commence à se réchauffer, mais le centre, lui, la température du centre ne bouge pas pendant 2-3 heures. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, votre extérieur va être à 14 degrés à peu près, et le centre, il est à 7 degrés. Et plus le temps avance, plus l'extérieur va monter vers 17 degrés à peu près, et le centre va remonter en température petit à petit. Mais il faut, pour un gigot, il faut plus de 6 heures.
D'accord, oui, mais en même temps, on ne va pas laisser notre morceau de viande 6 heures à l'air ambiance.
Pourquoi
niveau.
Pas
bah, pas oui, alors je reviens juste sur le fait de la sortir juste une heure avant ou une demi-heure avant. C'est que vous allez commencer la cuisson de la partie qui est la plus chaude. Et vous n'avez pas chauffé la partie qui est la plus froide. Donc vous allez terminer en faisant une surcuisson de l'extérieur avant que le centre soit juste chaud.
C'est ça.
En fait, j'ai mis au point un système qui fait que vous mettez votre viande dans un sac congélation, vous retirez l'air en le laissant glisser tout doucement dans un évier rempli d'eau à température ambiante. Et en 10 minutes, une bavette est à température ambiante. En une demi-heure, un gigot qui normalement prend plus de 6h30 pour revenir à température ambiante, en une demi-heure, il est à 20 degrés.
Donc ça veut dire que plonger dans une eau à 20 degrés entre 10 à 30 minutes, nos viandes, nos poissons reviennent à une température ambiante, dans toute l'épaisseur. Et donc ce qui permet cuisson optimale, évidemment. Dans cet ouvrage, un chapitre « Pourquoi j'essuie toujours les aliments avant de les faire dorer ou de les passer en friture ?» Ce que je ne fais pas forcément non plus.
Ah, mon papa, il faisait ça.
Ah ben, racontez-nous à quoi ça sert, ça, cette méthode.
En fait, sur la surface des aliments, des viandes, des poissons, il y a souvent une fine pellicule humide. Cette humidité doit la faire évaporer avant que la viande dore, par exemple. Donc, parce que cette humidité va empêcher la formation d'une croûte, parce que la formation d'une croûte, il faut que ça s'assèche.
Bien sûr.
Et si vous avez de l'humidité, ça vous empêche d'assécher. Donc, il faut, quand vous essuyez, vous allez faire dorer beaucoup plus rapidement. Et comme vous faites dorer plus rapidement, vous allez éviter une surcuisson de trop d'épaisseur de viande.
Pour les frites, Arthur Lequen, on fait nos petites frites maison, on les met dans un essuie, donc on les assèche avant le passage en friture.
Oui, alors là, je vais avoir des problèmes avec vos auditeurs.
Ouais.
Allez-y.
Ça, en fait, moi, je les fais pré-cuire à l'eau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je les surcuis très légèrement. Donc, je casse les arêtes, j'augmente la surface de la frite, parce que la pomme de terre commence à être un tout petit peu surcuite. Comme j'augmente la surface, quand je vais les faire frire, j'aurai plus de croustillants.
Mais est-ce que...
Attendez, Arthur, j'ai pas tout suivi.
Ah oui. D'abord à l'eau.
Oui, mais vous les détaillez déjà en frites.
Oui. Elles sont, mes frites, je les prépare.
D'accord.
Je les rince. Et ensuite, je les cuis à l'eau. Je les surcuis à peine. Donc, j'ai beaucoup plus de surface. Et comme j'ai beaucoup plus de surface, c'est la surface qui devient croustillante quand on la fait frire.
Mais après l'eau, comme j'ai plus de surface, après l'eau.
Et après, je les fais frire
en deux bains.
Ouais.
On est d'accord. Ouais. C'est la méthode Eston Blumenthal, notamment.
Bon. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ce croustillant perdure beaucoup plus longtemps. Il perdure à peu près une vingtaine de minutes dans l'assiette.
Mais alors, chaque bain dure combien de temps, Arthur?
En fait, vous faites un premier bain à 160 juste pour assécher un peu. Et là, vous pouvez les laisser comme ça pendant 2-3 heures. Et après, vous faites un deuxième bain à 180 qui dure une minute trente, pas plus.
Bon,
pas plus.
Ok, je connaissais pas non plus la technique. Suis-je à ce point-là ignarde? Je sais pas.
C'est quand même marginal dans le monde de la frite.
Ben
hein.
Voilà.
Mais c'est très intéressant, mais c'est marginal.
Là, je me suis aussi régalée, c'est le chapitre dédié aux plats de cuisson, Arthur Lequen. Poêle en inox, poêle en fer, poêle en fonte, poêle antiadhésive. Faut bien savoir ce qu'on utilise et ce qu'on y cuit. Par exemple, la poêle en inox, vous l'écrivez, elle transmet la chaleur qu'elle reçoit et crée beaucoup de sucre. Donc, j'imagine qu'elle est parfaite pour tout ce qu'on doit faire doré, c'est ça?
Absolument, oui. Absolument.
Et cuire en profondeur ensuite, voilà. Mais par exemple, la poêle en fer ou la poêle de fonte.
D'ailleurs, pardonnez-moi, si je vous coupe, c'est plus intéressant de cuire en profondeur avant et de faire dorer ensuite. Parce que quand vous faites dorer en premier, vous allez assécher la surface.
D'accord.
Une fois que la surface est sèche, elle va moins transmettre la chaleur. Donc quand vous faites dorer, par exemple, une viande, avant de la cuire tout doucement au four, par exemple,
prenons ma côte à l'os de demain, par exemple.
Pour votre côte de bœuf, une fois que vous l'avez remise à température, moi je vous conseille, comme dans le livre, de la mettre au four à 120 degrés.
D'accord.
C'est très peu, mais ça va permettre à la chaleur de pénétrer en profondeur. Et ensuite, vous la faites dorer sous le grill du four. Et là, vous la huilez légèrement, vous faites dorer, il vous faut compter à peu près 1 minute 30 par côté.
Et pas à la poêle du tout.
Non, pas à la poêle, parce que pour une raison simple, c'est que quand vous le faites sous le grill du four, il y a la chaleur, premièrement. Mais il y a les rayonnements infrarouges du grill qui vont faire dorer votre viande encore plus rapidement. Mm-hmm. Et comme ça va dorer plus rapidement, ça va vous éviter d'avoir une épaisseur de viande trop cuite.
La poêle en inox, elle crée beaucoup de sucre. Elle est parfaite pour faire dorer, puis cuire en profondeur et doucement si nécessaire. La poêle en fer, je trouve qu'elle est un petit peu plus compliquée. D'abord, elle doit être culottée plusieurs fois avant de devenir parfaitement antiadhésive. Elle a un intérêt à quel niveau
de c'est extraordinaire.
Oui.
C'est extraordinaire.
Oui.
C'est compliqué. C'est compliqué à utiliser. Ça passe pas au lave-vaisselle. Faut pas utiliser ou très très peu de détergent. Ça demande beaucoup de soins. C'est vraiment pour les.
Les
maniaques. Non, ça coûte pas cher, mais ça demande de l'attention.
Oui.
Ouais, beaucoup plus qu'une poêle en inox.
Mais cette poêle en fer, elle est intéressante, quoi, pour créer justement les
beaucoup
sucres.
De sucre. Elle crée beaucoup de sucre. Ensuite, vous pouvez l'utiliser à feu très très doux. Elle a une inertie de température qui est intéressante. Elle passe au four. Enfin bon, vous pouvez faire.
La conduction thermique, bien mieux que.
Oui.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire une différence, si je peux me permettre, entre les poêles en inox. Il y a plein de qualités différentes. Si vous l'achetez chez un grand magasin suédois et qu'elle s'appelle Glufunt, alors effectivement, en général, elle a peu de conduction parce qu'elle a pas beaucoup son âme entre deux couches d'inox. Avec Glufunt, j'ai inventé. Il y a pas grand chose dedans. Il y a un peu d'alus et tout. Si vous achetez des poêles en inox de haute qualité, il y aura une âme parfois en cuivre ou parfois en alu, parfois les deux, qui va faire que entre les couches d'inox, il va y avoir de la conduction. Alors que la poêle en fer, elle n'a pas besoin de tout ça, elle a la conduction naturelle.
Et la poêle anti-adhésive, effectivement, on en a tous, elle ne crée pas de sucre de cuisson et ne monte pas très fort en température, donc c'est peut-être pas l'idéal non plus.
Elle ne monte pas à plus de 180. Elle ne monte pas à plus de 180, donc elle ne dort pas bien les aliments.
Dites, et concernant le four, plat en céramique, en verre, plat en fer, en inox, attention, on ne met pas n'importe quoi dans ces plats. Par exemple, pour des plats en céramique et en verre, là, j'imagine que ça emmagasine bien la chaleur. Donc, c'est quoi?
Ça retransmet une chaleur douce et ronde, alors que le fer et l'inox, ça transmet une chaleur violente. Donc, c'est très bien pour des choses très peu épaisses que vous voulez faire dorer rapidement. Voilà. Vous pouvez faire un gratin, par exemple, mais s'il est peu épais, ça marche. S'il est très épais, s'il fait 2-3 cm d'épaisseur, au moins, il faut passer sur des plats en céramique ou en verre.
D'accord.
Et alors là, vous allez avoir une chaleur beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce, qui va permettre une cuisson en profondeur.
D'accord.
Le fer inox ne permet pas une cuisson en profondeur.
D'accord, donc pour un gratin dauphinois, plutôt plat en céramique et en verre, un bon poulet rôti par exemple, plutôt un plat en fer ou en inox.
Non, parce que en fait, vous allez transmettre une chaleur trop forte. Moi, je cuis le poulet rôti à 120 degrés aussi. En fait, le truc est simple. J'aborde cette température de 180 degrés. Je trouve que c'est la plus mauvaise température. C'est une température bâtarde et pas franche. C'est-à-dire que c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant pour faire dorer et c'est trop puissant pour cuire en profondeur.
D'accord.
C'est n'importe quoi. En fait, je cuis rien à 180 degrés. En gros, je cuis à 120 degrés. Comme ça, je cuis en profondeur. Et puis, je fais dorer à 250 ensuite.
Ça, c'est le truc que nous avait donné le chef
Christian Constant.
Christophe Poli.
Mais Christian Constant aussi, je pense. Mais je ne sais plus dans quel... Parce qu'il y en a qui saisissent avant, qui cuisent après, et puis il y a l'école.
En fait, il n'y a pas d'école à avoir, parce que c'est simple, vous prenez un morceau de viande, vous le coupez en deux, vous le faites dorer avant, et vous faites passer au four ensuite, et puis sur l'autre, vous faites le contraire. Vous coupez, et vous regardez la différence. Et là, c'est très visible.
La science nous aide.
C'est juste vérifier, vérifier et comparer.
Oui.
Il faut comparer. En fait, l'univers de la cuisine est un monde de croyances où les gens vérifient pas ce qu'ils avancent.
Mais donc, pour résumer, Arthur Lequen, pour notre poulet du dimanche, parce que vous avez en Belgique, c'est évidemment la grande tradition.
J'ai un truc dément pour le poulet.
J'ai vu dans votre recette qu'il y a un moment vous ajoutez de la levure chimique.
Alors j'ai deux trucs.
Mais racontez-nous.
J'ai deux trucs. Quand votre poulet est ficelé, dans le poulet rôti, les blancs sont toujours secs.
Eh oui.
C'est toujours sec. En fait, ils sont secs parce qu'ils sont trop cuits. Donc, quand vous vérifiez la bonne cuisson de votre poulet en plantant une petite aiguille dans la cuisse pour voir si le jus est transparent, les blancs, eux, sont cuits depuis un quart d'heure, 20 minutes. Donc, en fait, la problématique, c'est que les blancs sont cuits quand ils atteignent 65 degrés et les cuisses à 75 degrés. Comment faire? Donc, moi, je pars à l'inverse. Je vous dis, ça, c'est la problématique. Donc, j'essaye de trouver un système. Et je me suis aperçu que si j'enlève la ficelle... du poulet, parce que quand il est ficelé, les cuisses ne cuisent que d'un côté, que par l'extérieur. Quand j'enlève la ficelle et que j'écarte les cuisses, les cuisses cuisent des deux côtés. Donc elles cuisent beaucoup plus rapidement. Voilà. Et si je suis encore un peu plus vicieux, j'accroche les cuisses ensemble, j'étends ces cuisses. Et qu'est-ce qui se passe? Quand j'étends ces cuisses, j'affine le muscle. Et comme j'affine le muscle, j'accélérerai encore sa cuisson puisqu'il sera moins, ils seront moins épais.
D'accord. Ok.
Et donc, j'arrive en étendant les cuisses comme ça au maximum, j'arrive à atteindre 75 degrés dans les cuisses et que 65 dans les blancs. Et j'ai des blancs tendres.
On déploie la bébête si j'ai bien visualisé le truc.
Exactement.
Mais alors, il y a quand même un truc. Il nous reste une minute pour nous en parler, Arthur Le Ken. Donc, vous allez saler la bébête, j'imagine, donc longtemps à l'avance, la veille, pourquoi pas. Mais vous ajoutez de la levure chimique.
Ouais, alors ça, c'est un truc de dingue. Truc de dingue parce que ça change le pH de la peau, première chose. Donc, elle va déjà être plus croustillante. Et surtout, ça crée des mini-bulles. Et comme ça crée des mini-bulles, là encore, comme pour les frites, on augmente la surface. Et si on augmente la surface, on augmente la quantité de croustillant.
Donc, vous recouvrez toute la peau du poulet avec le sel et la levure chimique.
Oui, voilà, un petit sachet de levure chimique.
Ah bon.
Vous en mettez partout sur le poulet. Et puis, le lendemain, quand vous allez le préparer, vous essuyez et puis vous le mettez en cuisson.
D'accord.
Et là, vous avez une peau croustillante et qui reste croustillante. Là encore, une vingtaine de minutes.
120 degrés et puis à fond, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, 120 degrés, 2h30.
Ouais.
Comme ça, j'ai pas de partie surcuite.
Okay.
Et 120 degrés en mode sol-voûte, c'est mieux que la chaleur tournante. Et puis ensuite.
Attendez, en français.
Sol-voûte, en bas au-dessus.
Voilà, oui, mais.
Voilà, en bas au-dessus.
Oui, mais.
Vaut mieux être clair, hein.
Oui, voilà. C'est en mode sol-voûte, c'est en bas, en dessus, et j'évite la chaleur tournante, et puis je sors mon poulet, je monte le grill au maximum, et je remets à une quinzaine de centimètres du grill, et là je tourne mon poulet toutes les deux minutes à peu près. Et là je finis de le faire dorer.
Mais vous mettez une belle couche de beurre avant l'entrée dans le four, j'imagine. Ça,
oui, alors ça, vous mettez du beurre. D'abord, franchement, n'hésitez pas à mettre une grosse plaquette de beurre, quelques légumes, parce que ça va vous faire du jus ensuite, et vous allez pouvoir garder ce jus, là encore, pour faire des légumes aux enfants qui sont un peu réfractaires aux haricots verts ou aux carottes, toutes simples. Et vous en servirez sur les pâtes, vous pouvez mettre ça sur des œufs, c'est très très bon. Donc n'hésitez pas à faire plus de jus, ça se garde une quinzaine de jours au réfrigérateur.
Bien sûr, et puis avec des bonnes frites dont on a maintenant le truc infaillible, cuisson à l'eau et puis deux bains de graisse.
Voilà.
Et la messe est dite.
Ah voilà. Bah écoutez,
et
en tout
plein,
cas,
plein d'autres conseils dans cet ouvrage. Allez-vous faire cuire un œuf à la perfection, écrit par vous Arthur Le Ken, et c'est publié aux éditions Albin Michel. Comme je vous sais, très amateur de fromage, Arthur Le Ken, je vous invite à rester avec nous, puisque l'ami Léo Béguin va nous parler du Gouda. On en est fada en Belgique et on fera un petit tour du propriétaire et on ira creuser les meules pour savoir ce que l'on mange juste après.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.